Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, comme vous venez de le voir, le prêtre vient d'éteindre le cierge pascal qui représente notre Seigneur Jésus-Christ. Hein, c'est la blancheur du cierge, la cire virginale qui vient de l'abeille, qui représente l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que dans le cierge pascal, on met les cinq grains d'encens. Rappelez-vous la cérémonie de la vigile pascale qui représente les cinq plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on l'éteint après l'évangile pour bien nous montrer que notre Seigneur Jésus-Christ monte au ciel, donc il disparaît d'ici-bas. Mais rassurez-vous, il y a une autre lampe qui brûle, celle qui est à gauche là, la lampe du Saint-Sacrement. Donc une lampe s'éteint, une lampe s'allume. Celle qui s'éteint, c'est la présence de notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas sur la terre, mais il est immédiatement remplacé en fait par lui-même. Le bon Dieu n'a pas voulu nous laisser tout seul. Un acte d'amour extraordinaire, absolument incompréhensible, c'est un des plus grands mystères de la foi catholique. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu rester caché sous les apparences du pain et du vin. Et donc, il va ordonner prêtres, ses apôtres, le jeudi saint au soir, il va les consacrer évêques, leur donner le pouvoir de continuer, faites ceci en mémoire de moi, a-t-il dit, continuer, de se continuer littéralement par la Sainte Messe. Donc, il y a toujours des cierges qui brûlent. Le cierge qui brûle constamment, la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis le cierge, les cierges de la messe qui sont allumés pendant la messe. Pour bien nous montrer justement que notre Seigneur Jésus-Christ est là, caché sous les apparences du pain et du vin, avec le même corps, le même sang, la même âme, la même divinité. Mystère insondable. Et vous connaissez la thèse, qui n'est pas de foi, mais qui est très belle, le jour où cette lampe s'éteindra. Le jour où il n'y aura plus de lampe du Saint-Sacrement qui brillera près d'un tabernacle, ce sera la fin du monde. La fin du monde arrivera en fait le jour où la dernière lampe qui brûle devant le Saint-Sacrement s'éteindra parce qu'il n'y aura plus de prêtres. Ce jour-là sera la fin du monde parce qu'il n'y aura plus de moyens d'atteindre notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu nous sauver par le sacrement, par la grâce sanctifiante. Et la grâce sanctifiante, comment l'était-elle donnée? La grâce sanctifiante nous est donnée par le sacrement. Sacrement de baptême, bien sûr, et ensuite, pour garder, vivifier cette grâce sanctifiante, le bon Dieu a voulu nous donner la Sainte Messe, la Sainte Eucharistie, la confession pour nous préparer à recevoir la Sainte Eucharistie. Et donc, il ne faut pas s'étonner si nous voyons aujourd'hui, évidemment, cette persécution terrible contre la messe. Parce que le démon le sait très bien. Il sait que la messe lui arrache des âmes. Le rôle du démon, c'est quoi? Pourquoi le démon est-il sur la terre? Le démon est sur la terre précisément pour empêcher les âmes de monter au ciel. Donc c'est une double influence. L'influence de notre Seigneur Jésus-Christ qui attire les âmes vers le ciel et l'influence du démon qui, au contraire, essaye de précipiter les âmes en enfer. Le but du démon, c'est quoi? Quelle est la cause finale du démon? La cause finale du démon, la présence du démon est là sur la terre, c'est d'obtenir la damnation du plus grand nombre. Et pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est-il venu? Pourquoi est-ce que Dieu le Père a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour sauver le plus grand nombre? La volonté divine, c'est donc de sauver le plus grand nombre. Ce qu'on a dit dans la magnifique oraison pour les temps d'épidémie. Alors, ici-bas, on est sur la terre, avec les deux pieds sur la terre, mais il faut nous obliger à regarder vers le ciel. Et là, encore une fois, on voit cette double influence, ce bon Dieu qui nous oblige à regarder vers le ciel pour contempler ce paradis dans lequel on n'est pas encore. Mais on médite déjà sur ce paradis pour nous donner envie d'y aller. Rappelez-vous, saint Thomas d'Aquin qui disait à sa sœur, qui lui demandait quelle est la première condition pour aller au paradis, il a répondu à sa sœur, désirer le paradis, un grand désir du paradis. Et beaucoup de docteurs enseignent, je vous l'ai déjà souvent dit, qu'il y a un purgatoire spécial pour ceux qui se restent en état de grâce, mais qui n'ont pas suffisamment désiré le paradis. Et donc, pour contrebalancer le poids du démon qui nous tire vers le bas, il faut avoir ce grand désir du paradis. Donc, désir du paradis, au contraire, le démon qui cherche à nous à nous empêcher de monter les yeux vers le ciel et de maintenir nos yeux sur la pourriture, la pourriture, la laideur, la pagaille du monde moderne. Et donc, notre âme s'élève vers le ciel avec le bon Dieu et au contraire, est incapable de s'élever si elle vit dans le péché mortel. Et c'est la façon d'expliquer le magnifique évangile d'aujourd'hui, la finale de l'évangile selon saint Marc. On voit à la fois la miséricorde extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ et en même temps les conséquences pour ceux qui refusent cette miséricorde. Qu'est-ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ en saint Marc? Allez prêcher l'évangile à toute créature. Vous avez entendu, à toute créature raisonnable, évidemment. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ va envoyer, il va encore attendre un peu, il va attendre de leur donner le Saint-Esprit, donc entre l'ascension et la fête de la Pentecôte, dans 10 jours, ils vont suivre une retraite, en quelque sorte, avec la Sainte Vierge, quelques saintes femmes, et quelques disciples aussi qui sont là. Et il va donc achever leur préparation par cette retraite, pour après envoyer ses apôtres à la conquête du monde. 12 personnes. En fait, à l'époque, ils sont plus que 11. 11 personnes à la conquête du monde moderne. Pour prêcher. Et en même temps, il rappelle, attention, celui qui croira sera, et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est le vrai œcuménisme de l'Église catholique. Prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, précisément parce que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique chemin pour aller au ciel. Il n'y en a pas deux. C'est ou lui ou rien. C'est pour ça qu'on ne peut même pas dire ce qu'on entend beaucoup trop souvent, parfois même chez les catholiques, qui nous disent qu'il y a des valeurs de salut dans les fausses religions. C'est faux. Il n'y a pas de valeur de salut en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit expressément, je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'est pas une des voies possibles, il est l'unique voie. Il n'est pas une des vérités, il est l'unique vérité. Il n'est pas une des vies possibles, il est l'unique vie. C'est pour ça qu'il ajoute, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'amasse pas avec moi est disciple. Alors derrière cette magnifique fête de l'ascension, quelle est la grande vertu qui est derrière? C'est justement la vertu d'espérance. La vertu d'espérance qui nous donne à la fois le moyen et la fin. Le moyen, c'est quoi? La grâce. Et la fin, le ciel. Ce que vous dites dans votre acte d'espérance, c'est ce que nous disons dans notre acte d'espérance. Il faut le citer tous les jours, cet acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde, le moyen, et si j'observe vos commandements, le paradis, le ciel. Donc, la vertu d'espérance, si vous voulez, nous oblige à demander au bon Dieu qui ne refuse jamais sa grâce, qu'il la lui demande avec humilité, demander avec humilité cette grâce pour pouvoir aller au ciel, parce que personne ne peut aller au ciel sans la grâce du bon Dieu. C'est impossible. Ou cette vertu d'espérance qui est peut-être aujourd'hui la vertu dont on a le plus besoin. On n'a pas le passé de cette vertu d'espérance. Certes, elle est moins importante que la vertu de charité. En plus, c'est la vertu d'espérance, elle n'est qu'ici-bas, c'est tout. Il n'y a pas d'espérance au ciel. On espère quelque chose qu'on n'a pas. Une fois qu'on est au ciel, on procède devant Dieu. On n'a plus besoin de foi, on n'a plus besoin d'espérance au ciel. Par contre, il y aura la charité. Une fois que la foi et l'espérance vont disparaître, au moment où nous passons au ciel, il n'y aura plus besoin d'espérer en Dieu, puisqu'on l'aura, on espère quelque chose qu'on ne voit pas encore. Et c'est là où il faut l'espérance, parce que n'oubliez pas que notre situation est un peu, même presque plus compliquée, plus difficile que celle des apôtres. Les apôtres, au moins, ils voyaient l'humanité de notre Seigneur. On ne la voit pas. Les apôtres ont même vu, par les miracles, par l'accomplissement des prophéties, par la transfiguration au sommet du Tabor, au moins pour Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, ils ont vu même une partie de la divinité. Nous, on ne voit ni l'humanité, ni la divinité. On voit un bout de pain, c'est tout ce qu'on voit. Ce qui apparaît comme un bout de pain. C'est là où la foi intervient. La foi intervient, justement, pour nous rappeler, ce n'est pas du pain. C'est la substance du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur. Et cette vertu d'espérance, elle va alimenter une autre vertu, fondamentale. C'est la reine des vertus cardinales, la vertu de prudence. Précisément parce que on ne possède pas encore le ciel, il faut pas jouer avec le feu. Faut pas jouer avec le feu, il faut garder cet espoir d'aller au ciel et donc avoir cette prudence. Cette prudence est absolument fondamentale. La prudence qui nous permet justement de nous occuper des choses essentielles. C'est quoi la chose essentielle? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Pour sauver mon âme. Rappelez-vous le début des exercices Saint-Ignace. J'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver mon âme. Donc cette vertu de prudence est fondamentale. Et sur quoi travaille la vertu de prudence? La vertu de prudence, elle travaille sur notre intelligence. Quatre vertus cardinales travaillent sur les quatre vertus, les quatre vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance, vont travailler sur les pouvoirs de notre âme. L'intelligence, la volonté, l'irascible, le concupiscible, mais la prudence travaille sur l'intelligence. Pourquoi on a une intelligence? Je vais souvent expliquer. L'objet formé de notre intelligence, le vrai, atteindre le vrai. Et donc la vertu de prudence va nous aider à nous obliger en quelque sorte à conserver notre intelligence pour pointer vers le vrai. Utiliser notre intelligence pour les choses importantes. Et le démon, pendant ce temps, il va tout faire pour nous faire utiliser notre intelligence pour les choses secondaires, pour remplir notre âme des choses secondaires, pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses principales. Ou notre Seigneur Jésus-Christ, ou l'homme. Soit on est catholique, à ce moment-là, on cherche à remplir notre âme avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec la vertu de prudence. Soit au contraire, on suit la nouvelle église, à ce moment-là, c'est l'homme. On cherche à remplir l'âme de l'homme et avec la souveraine imprudence qui consiste justement à oublier notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a l'espérance, la prudence, et cette prudence va nous donner accès à un don du Saint-Esprit très spécial, qui est le don spécifique qu'il nous faut demander en cette fête de l'Ascension, le don de conseil. Espérance, prudence, conseil. Le conseil, eh bien, c'est le don qui nous aide à nous asseoir, commence à compter un peu ce qu'on veut faire. Rappelez-vous l'exemple que notre Seigneur Jésus-Christ donne. Avant de construire une tour, on commence par s'asseoir pour voir si on a suffisamment de matériel. Avant d'aller se battre contre l'ennemi, on commence à regarder si avec le nombre de soldats et de l'armement dont je dispose, je peux me battre contre l'ennemi. Bien, ce don de conseil est absolument fondamental aujourd'hui. Prendre le temps pour penser aux choses importantes. Et une fois qu'on a exercé ce don du Saint-Esprit, ce don de conseil, le don de conseil va nous permettre à ce moment-là d'exercer un autre don qui est le don de force. Les dons travaillent par binôme. Le conseil travaille avec la force. Mais avant d'exercer notre force, il faut savoir comment l'exercer. La force pour nous battre, le conseil avant de nous battre, commencer par s'asseoir et réfléchir comment je vais me battre, contre qui je me bats. On va adapter les armes offensives et défensives au combat dans lequel nous sommes engagés. Et nous sommes engagés contre un combat, contre, nous dit Saint Paul, des esprits des ténèbres. Pas l'esprit, parler des choses matérielles, contre l'esprit des ténèbres. Et donc, il faut des moyens surnaturels pour lutter contre les choses surnaturelles. Le démon, c'est quelque chose de... C'est un pur esprit, attention. Voilà pourquoi il nous faut, en cette fête de l'Ascension, supplier le bon Dieu de nous donner à la fois cette vertu de prudence et ce don de conseil qui va nous aider à utiliser le don de force. Le bon Dieu a promis que nous aurions ces dons du Saint-Esprit pour nous diriger dans la vie, dans le combat spirituel qui est le nôtre. Mais n'oublions pas une chose capitale. Les dons du Saint-Esprit qui sont nécessaires au salut forment ce qu'on appelle la couronne de la charité. Pas de charité, pas de don du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui sont souverainement imprudents pour la plupart d'entre eux? Pourquoi les gens d'aujourd'hui font sans même s'asseoir pour prendre conseil d'abord? Parce qu'ils ont perdu la grâce sanctifiante. Ayant perdu la grâce sanctifiante, ils ont perdu tous les dons du Saint-Esprit, entre autres, commencer par la sagesse, par le conseil et la force, et donc du coup, ils vont perdre leur temps avec des choses qui sont sans importance. C'est ce que veut le démon. Donc pour lutter contre le démon qui rôde autour de nous, nous dit Saint Pierre, comme un lion qui cherche à dévorer sa proie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce sanctifiante. Et cette grâce sanctifiante va augmenter en nous. Cette grâce sanctifiante, c'est la vertu de charité. La vertu de charité ne peut pas exister sans justement la vertu d'espérance, la vertu de foi. Le péché mortel détruit la charité, mais heureusement pas la foi et l'espérance. Donc si j'ai la grâce sanctifiante, j'aurai la vertu de prudence, j'aurai le don de conseil, le don de force, et tous les autres dons du Saint-Esprit. Alors ne nous décourageons pas, mes bien chers frères, la fête de l'ascension, c'est la fête de l'espérance. Et là, les apôtres, ils n'ont pas tout compris ça au début, hein, puisque ils regardent notre Seigneur Jésus-Christ qui vient de disparaître derrière les nuages, ils sont tout tristes, mais alors il est parti. Et Dieu va envoyer deux anges. Il leur dit, il reviendra. Et il leur enjoint d'aller justement se préparer à recevoir le Saint-Esprit. Et il va y avoir cette dizaine de jours entre aujourd'hui, jour de l'Ascension, jusqu'au dimanche de la Pentecôte, où ils vont recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, ça va être le déferlement de la vérité, justement, sur le monde. Ils vont prêcher dans le monde entier, ils vont tous mourir martyrs, sauf Saint Jean, justement pour prêcher cette vérité. Alors, ne nous décourageons pas, mais n'oublions pas aussi un dernier point très important, c'est que puisque la très sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, est médiatrice de toutes les grâces, et grâces dont je viens de vous parler passe par elle. Hein. Pas d'espérance sans la Sainte Vierge. Pas de prudence sans la Sainte Vierge. Pas de don de conseil sans la Sainte Vierge. Pas de don de force sans le don de la Sainte Vierge. Sans la Sainte Vierge. C'est par elle que tout passe. Pourquoi le monde moderne fait tout pour écrabouiller la Sainte Vierge? Parce qu'ils savent très bien. La très Sainte Vierge Marie est l'instrument des grâces. Alors, ne nous laissons pas décourager, mes bien chers frères, mais au contraire, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, demandons à sa très sainte mère de nous donner ces grâces dont nous avons tous besoin, ces grâces extraordinaires qui tournent justement autour de cette vertu d'espérance, et répétons souvent notre acte d'espérance. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette vertu d'espérance qui semble apparemment moins importante que la grâce sanctifiante, que la maison elle-même, si vous voulez. C'est comme une porte. On a l'impression qu'une porte, c'est moins important que la maison, quand même. S'il n'y a pas de porte, on rentre pas dans la maison. Hein. La porte pour rentrer dans la maison, c'est l'espérance. La maison, c'est la charité. Pas de porte, pas de maison. On a une maison, on va rentrer dedans. Imaginez quelqu'un qui a une pièce avec toute la nourriture, toutes les réserves alimentaires, et il a perdu la clé. Il a une porte blindée, et il y a plein à manger derrière la porte blindée, mais il ne peut pas rentrer dans la pièce fortifiée où il y a toutes les réserves alimentaires s'il a perdu la clé. Cette clé, c'est l'espérance. La clé, c'est l'espérance. Alors, j'ai perdu la clé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller demander à la Sainte Vierge Marie, lui expliquer, voilà, j'ai perdu la clé. La Sainte Vierge a une clé de rechange. Elle a une clé de rechange, elle va venir, elle va vous ouvrir la porte. Mais c'est qu'elle, il y a qu'elle qui a la clé de rechange. Et donc la Sainte Vierge Marie, elle va nous ouvrir la porte pour que nous puissions nous alimenter de nouveau, alimenter notre âme par la grâce sanctifiante. N'oublions pas cela, surtout aujourd'hui plus que jamais, ne jamais oublier que le pouvoir du démon sur nous est limité par Dieu. Le bon Dieu n'a pas permis, ne permet pas que le démon puisse faire ce qu'il veut. Il est limité dans son pouvoir. Saint Augustin dit que c'est comme un chien qui est accroché à une chaîne. Alors évidemment, tant qu'on reste à une distance supérieure à la longueur de la chaîne, on est protégé. Mais si on commence à vouloir faire le malin, le démon qui est un malin, comme le chien qui va se mettre à côté du point d'ancrage de la chaîne pour cacher la chaîne et faire croire qu'il dort. Mais le démon, il attend qu'on rentre dans le rayon de la chaîne, à ce moment il nous saute dessus. Mais si on reste à distance avec la Sainte Vierge Marie pour nous protéger, aucun risque. Je l'ai souvent dit, et c'est beaucoup de pères de l'Église qui disent ça, qui disent qu'avant de rentrer dans une âme, c'est chercher à rentrer dans une âme, le démon n'est pas complètement fou, hein. C'est un ange, il faut oublier ça, il est plus intelligent que vous et moi. Le démon commence par regarder par la porte de derrière, par la fenêtre de derrière, si la Sainte Vierge est dans la maison. Et si la Sainte Vierge est dans la maison, il passe, il ne rentre pas dans cette maison. Parce qu'il sait que s'il rentre dans une maison qui est protégée par la très Sainte Vierge Marie, il va prendre des coups à tous les coups. Oui, ça va courant. Donc gardons la très Sainte Vierge Marie, priez bien votre chapelet tous les jours, surtout pas les temps qui courent. Nous avons besoin de la très Sainte Vierge Marie, besoin de nous alimenter spirituellement, besoin, c'est la vertu d'espérance, c'est la vertu de foi qui nous donne la vertu de charité, besoin des dons du Saint-Esprit, besoin des vertus cardinales, mais n'oublions pas que la Sainte Vierge Marie est là, justement, pour nous aider à nous maintenir avec le regard tourné vers le bon Dieu, même si tout nous attire vers les choses de la terre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.